Bonsoir. Le projet de loi électorale révisé a été adopté hier lundi à l'Assemblée nationale. Cela sans que le consensus n'ait été trouvé à l'issue de deux jours de négociations entre les députés de la majorité et ceux de l'opposition. Ces derniers n'ont pas pris part au vote puisque, selon eux, leurs observations n'ont pas été prises en compte. Les divergences ont persisté sur le seuil d'éligibilité, la caution et la machine à voter. Quelle lecture faire de cette situation? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois Maître Tarcis Matadiouamba. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député national de la majorité présidentielle et président du Parti travailliste libéral. Vous êtes également bâtonnier national. Jérôme Bonsoir, bonsoir.
Bonsoir, cher ami Alain. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio de la paix.
Vous êtes président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'INELIT, et aussi coordonnateur de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées à État. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui, c'est Déli Sesanga, député national de l'opposition et président du Parti politique en vol. Il est aussi président de la plateforme Alternance pour la République et cadre du Rassemblement. On me signale qu'il est en ligne. Honorable Sesanga, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Adoption ce lundi à l'Assemblée nationale du projet de loi électorale. 284 sur 287 députés ont voté oui, alors que les députés de l'opposition n'ont pas pris part au vote. Selon eux, leurs observations n'ont pas été prises en compte. Les opposants ont donc décidé de boycotter de nouveau l'examen de ce projet de loi à la clôture des consultations initiées par le président Obeminakou pour dégager un consensus quant à ce. Le médiateur des consultations et premier vice-président de l'Assemblée nationale revient ici sur les divergences entre majorité et opposition autour de la loi électorale. Floribert Louongué est au micro de Michel Kifindangoy.
D'abord, pour les collègues de l'opposition, il n'est pas question d'appliquer les seuils aux élections présentes qui sont en voie d'être préparées. S'agissant de cette question de la machine à voter, pour l'opposition, il n'est pas question d'utiliser cette machine compte tenu du fait qu'elle n'est pas tout à fait fiable à leur point de vue. Du côté de la majorité, ils ont estimé que sur cette question des seuils, la majorité présidentielle avait déjà suffisamment évolué en acceptant 1%. Et tandis que, en ce qui concerne la machine à voter, ils sont arrivés à la conclusion et à nous proposer que la loi électorale n'est pas concerné par cette question des machines à voter. C'est ainsi qu'après beaucoup de discussions, ils ont un peu évolué et proposé que la question des seuils soit posée au niveau des circonscriptions électorales et non au niveau national.
Notez qu'en dépit de cette adoption de la loi électorale en l'absence de l'opposition, certaines dispositions du texte voté n'ont pas fait l'unanimité au sein même des députés de la majorité. On écoute l'honorable Henri Thomas Lokondo qui a plaidé pour la suppression du seuil électoral et qui menace de saisir la Cour constitutionnelle à ce sujet.
L'article 118 viole la Constitution à deux égards. La Constitution dit que le suffrage est universel et direct. Et quand vous lisez cet article, il y a un élément indirect qui intervient. Si vous devez faire intervenir le seuil de représentativité, alors que, surtout pour un indépendant, cela veut dire en d'autres termes que son résultat dépend d'un élément qui n'est pas de la circonscription là où il se présente directement. Ça énerve ces dispositions. Et deuxièmement, pour les indépendants qui ne sont pas membres de groupements politiques, comment vous allez calculer son taux de représentativité s'il est candidat à une circonscription à plusieurs sièges? Cela énerve l'esprit et la lettre de la Constitution. L'indépendant est automatiquement exclu. C'est pourquoi j'ai dit avec les autres qui ont voté pour la motion, nous allons introduire une requête au niveau de la Cour constitutionnelle pour que la Cour puisse nous fixer sur la constitutionnalité ou l'inconstitutionnalité de cet article 118 de la loi électorale.
Voilà, c'est un dossier signé Michel Kifindangoy. Honorable Déli Sesanga, vous êtes député national de l'opposition et président du parti politique en vol et aussi président de la plateforme Alternance pour la République et cadre du Rassemblement. Ce projet de loi a été adopté à l'Assemblée nationale dans un contexte de manque de consensus. Comment vous expliquez ça?
D'abord par la volonté du pouvoir de se maintenir dans sa fonction sans respecter les règles élémentaires de la démocratie. Je rappelle que Joseph Kabila n'a été maintenu à la tête du pays qu'en supprimant le deuxième tour de l'élection présidentielle en 2011, et on sait le résultat que cela a produit. Aujourd'hui, la majorité qui se sait en perte de vitesse a voulu changer les règles du jeu pour instaurer une démocratie en fait fondée sur l'argent détourné des corruptions et des mauvaises gestions du pays dans un état pauvre où on exige en fait des millions à des candidats pour pouvoir postuler à des fonctions publiques, comme si la majorité c'était acheter les charges publiques après avoir pillé le pays par sa mauvaise gestion. Et deuxième chose, c'est que la même majorité qui est incapable aujourd'hui de se faire élire par les règles que l'on connaît modifie, comme c'est devenu sa coutume, les règles à quelques heures de scrutin, les règles du jeu, ce qui est antidémocratique et viole notamment les engagements internationaux de la République démocratique du Congo, la Charte sur la démocratie de l'Union africaine et les instruments pertinents que nous avons au niveau de la francophonie. Et donc cette règle visant à introduire le seuil vise tout simplement à surreprésenter certains partis de la majorité, et de l'autre côté, il y a cette soi-disant machine à voter qui vient surajouter au problème que nous avions, qui n'était pas un problème, mais qui vient surajouter au problème que nous avions, un nouveau problème visant à organiser la fraude et à substituer au droit de vote des Congolais, qui est un droit qui n'est pas un privilège que la majorité accorde aux citoyens congolais, qui est un droit substitué à ce vote des machines qui vont voter à la place des Congolais, parce que nous connaissons la mécanique de la fraude qu'ils veulent déployer. Et donc nous avons dit, nous sommes prêts pour aller aux élections, mais pas pour aller à des élections où on va se faire assassiner, des élections dans lesquelles la majorité se prépare d'ores et déjà à organiser la fraude à grande échelle, parce que s'ils étaient prêts pour les élections, c'est en 2016 qu'on les aurait faites, et on les aurait faites sur base des règles qui sont établies et connues de tous.
Alors, en parlant du seuil d'éligibilité, il faudrait d'abord qu'on sache actuellement, après discussion, ce seuil a été maintenu en combien, et aussi au niveau de l'alternance pour la République, vous avez produit une étude concrète et pratique. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Ben écoutez, l'étude que nous avons faite a essayé d'examiner la loi actuelle, parce qu'ils n'ont pas fait, ils ont fait une modification, une réforme, sans produire l'étude d'impact, montrer quel était l'impact de cette étude sur nos élections. Et nous avons fait cette étude qui a montré quoi? Qui a montré d'abord que le seuil visait à éliminer le choix libre que les Congolais pouvaient opérer dans certaines circonscriptions. Deuxième élément, on nous dit que le seuil va écrémer les partis politiques. Mais il ne revient pas à la loi électorale de régler le régime des partis politiques, parce que les partis politiques sont régis par une autre loi. Ce n'est pas par cette loi qu'on va éliminer les partis qui n'ont pas d'élus au niveau donc de l'Assemblée nationale. Et troisièmement, quand vous regardez l'application du système de seuil, ils veulent obtenir deux choses, c'est-à-dire éliminer la perspective d'une alternance. Ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Et là, je vais dire une chose qui est très importante, c'est que en voulant se maintenir au pouvoir, il faut que la majorité comprenne une chose. Nous avons fait la guerre pour en arriver là. Et nous avons fait cette constitution pour mettre fin à la guerre. Le fait aujourd'hui de préférer la paix et de choisir la voie pacifique, ce n'est pas une naïveté, parce que nous connaissons les prix de la guerre, c'est pourquoi nous mesurons ce que nous obtenons par la paix. Mais il faut pas qu'ils exagèrent et continuent à considérer que, en étant au pouvoir, ils peuvent faire n'importe quoi. Ils veulent se maintenir au pouvoir par la force, par la corruption, par les détournements des deniers publics. Et une telle démocratie dans un pays qui est pauvre appelle une réaction des violences de la part de nos concitoyens. Nous ne ferons peut-être plus la guerre, mais d'autres, pour les faire partir de là, prendront peut-être les armes pour le chasser, et nous serons bien tristes d'assister que dans ce pays une nouvelle guerre reparte, alors que nous avions pensé que ce problème
avait été résolu. Alors, en parlant toujours du seuil et de votre étude au niveau de l'alternance pour la République, si on devait être concret, honorable Sessanga, vous avez fait des simulations. Si, par exemple, le seuil de représentativité était de 3%, vous dites qu'il n'y aura que 6 partis politiques seulement qui s'en sortiraient. Vous citez le PPRD, PPDD, MSR, le PALU, l'UDPS et l'UNC. Le MLC passerait à la trappe, dites-vous. Et si le seuil est de 2%, vous citez, vous ajoutez la FDC, le MLC, ECT, ARC, RRC. Et si le seuil est d'1%, vous ajoutez 10 autres partis. Et comme disait le gouvernement, est-ce que ça n'a pas l'avantage de réduire, de supprimer les partis fantaisistes, entre guillemets?
Bon, ça dépend ce que vous appelez parti fantaisiste. Quand vous examinez les statistiques, vous verrez que l'élément discriminant, ce n'est pas la représentation nationale. L'élément discriminant, c'est le nombre de candidats qui est présenté. J'aurais compris qu'on ait fait une proposition où on exigeait des partis politiques à présenter un nombre minimum de candidats sur l'étendue du territoire national. Et de l'autre côté, il faut savoir que nous sommes un pays multiculturel où il y a des diversités. Vous voulez comprendre que, par exemple, à Boulungou, quelqu'un qui est élu à Boulungou serait éliminé au motif qu'il est sur un parti qui n'a pas atteint le seuil, mais que le parti qui lui a atteint le seuil parce qu'il est dans l'Ituri avec la densité démographique fait qu'il fait élire quelqu'un à Boulungou. J'ai entendu cet argument tout à fait fallacieux. On dit que dans le système actuel, on élit quelqu'un à 500 voix. Mais quand vous faites la simulation sur les résultats de 2011, il y a des gens qui sont élus avec 105 voix, qui sont députés et qui vont siéger. Merci. Parce que on a appliqué le système de seuil. Donc c'est tout à fait farfelu d'avoir voulu écrémer au niveau de l'Assemblée nationale et d'avoir voulu écrémer avec la machine à voter. Merci. Qui supplée et organise la fraude de la majorité.
Merci. Maître Tarcisse Matadiouamba, vous êtes député national de la majorité présidentielle et président du parti travailliste libéral. Vous êtes également bâtonnier national. Une loi adoptée sur fond de constitution, est-ce que ça présage un bon lendemain?
Mais une loi est d'abord impersonnelle, n'est-ce pas? Une loi est impersonnelle. On peut la contester, on peut ne pas l'aimer, hein? Mais en tant qu'impersonnelle, une loi à première vue n'avantage personne, n'est-ce pas? On ne m'entend pas bien.
Allez-y.
Bon, voilà. Alors, moi, d'abord, je voudrais constater que mon collègue, l'honorable Sessanga, est président d'un parti politique, comme moi-même. Nos partis, en tout cas le mien, sont comptés parmi les petits partis.
Et qui ne survivraient pas au seuil, quel qu'il soit.
Ben, voilà. Alors, est-ce que ça devient un problème dont il faut débattre? Que des partis politiques disparaissent, certains, parce qu'ils n'ont pas obtenu le nombre de voix qu'ils auraient voulu avoir. Est-ce que ça doit faire l'objet d'un meeting, parce que mon collègue vient de...
Est-ce que ça ne viole pas le principe démocratique?
Je vais répondre, non, absolument pas. Absolument pas. Si vous voulez que je commence par là, je dis ceci. D'où venons-nous? Nous venons d'un parti État, le MPR. Parti État, parti unique. Et lorsque son fondateur le supprime en 90, il a décidé le multipartisme à 3. N'est-ce pas? J'étais à l'Assemblée nationale, conseil législatif à l'époque, comme le vieux. Comme Sessanga père, nous étions à l'Assemblée nationale. Et Mobutu décide, lorsqu'il supprime le parti unique, il dit, je connais bien mon pays, il faut 3 partis, et c'est un espace démocratique suffisant, nous allons aller aux élections. Eh bien, nous, les députés de l'époque, nous avons modifié la Constitution, la loi électorale, en instituant le multipartisme à 3, n'est-ce pas? Et l'opposition va trouver matière pour contester cette modification de la Constitution ainsi que la loi électorale consécutive et demander le multipartisme intégral. C'est-à-dire que chacun peut créer son parti politique et l'honorable.
Et c'est ça qui vous a permis, vous, de devenir député national.
Ça m'a permis, moi, de devenir député national, mais suivez ceci, c'est que ça a permis au pays d'avoir plus de 700 partis politiques. Plus de 700 partis politiques. Ça pose quand même un problème. N'est-ce pas? Alors, est-ce que de corriger cela par l'introduction du seuil que mon collègue dit être, je l'ai noté, n'est-ce pas, un facteur d'élimination des partis politiques, que mon collègue dit être une cause de guerre, parce que j'ai entendu le mot et je viens de le citer, de le noter. Est-ce que ce n'est pas excessif de sa part?
Mais en quoi les 700 partis politiques gênent la vie démocratique?
Mais voilà la question. Voilà la question, n'est-ce pas? Lorsque il existe 700 partis politiques dans un pays, eh bien, effectivement, ça peut poser problème. Hein? D'où viennent, si vous voulez, les opposants qui viennent gonfler la majorité présidentielle, si je peux m'exprimer ainsi? Mais ils viennent de l'opposition. Il vient de l'opposition parce que, n'est-ce pas, ce n'est pas la ligne de démarcation n'est toujours pas claire. Avec plus de 700 partis politiques, eh bien la gouvernance, le gouvernement d'un pays devient difficile. Si l'on sait que les gens veulent des postes, les gens en demandent toujours, en redemandent pour un oui, pour un non. Il faut qu'ils aillent au gouvernement. Et s'ils ne sont pas au gouvernement, ça devient un problème. Ce n'est pas le cas de mon collègue.
Alors, hein? Quel est le seuil qui a été retenu, finalement?
Le seuil? Je crois savoir que c'est 1 dans la loi que j'ai ici, 1%. Mais ça signifie quoi? Ça lèse qui?
Mais vous avez suivi aussi votre collègue de la majorité, l'honorable Lokondo, qui pense que c'est inconstitutionnel et ça empêche les indépendants également de s'émouvoir.
Mon collègue Lokondo m'a cité, n'est-ce pas, sur cette question-là, pour conforter sa position. Mais il m'a cité uniquement s'agissant des indépendants. Ça poserait un problème, je dis bien
de constitutionnalité.
Et lui et moi et l'Assemblée tout entière n'est pas juge de la constitutionnalité. Il faut aller là où cette question-là doit être tranchée, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle. N'est-ce pas? Alors, il a fait, collègue Lokondo, une démonstration cohérente s'agissant uniquement des indépendants. Or, le problème est réglé dans la loi. Hein? Ça concerne, le seuil concerne beaucoup plus, pour ne pas dire exclusivement les partis politiques et le regroupement, mais pas les indépendants. Et alors, si vous voulez, c'est tout simplement du point de vue logique de raisonnement, que le collègue Lokondo a eu raison. Mais dans le fond, le seuil ne concerne pas les indépendants.
Merci. Jérôme Bonsoir, vous êtes président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'INELIT, et aussi coordonnateur de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées à État. Comment vous analysez cette situation dans laquelle une loi aussi importante que celle-ci est adoptée sur fond de divergence?
Merci, cher ami Alain. Avant de commencer, je salue honorable Délice Sanga et Batonier Matadiwamba qui sont mes co-débatteurs ce soir sur le plateau de la radio de la paix. Le débat est focalisé autour de la loi électorale. Tout est parti de la loi électorale du 9 mars 2006. Cette loi qui a été modifiée en 2011 et dont certains articles ont été modifiés en 2015. Et cela suppose quoi? Aujourd'hui, les débats se focalisent sur la réforme électorale. Et d'où vient la réforme? On réforme quand il y a une évaluation du procès électoral.
On réforme quand il y a eu des rapports d'audit, des rapports des observateurs de partis politiques pour dire il faut réformer. Mais il y a un verbe qui saute à l'œil nu, c'est le verbe réformer. Et quand nous consultons notre dictionnaire en ligne, en carré, on nous dit c'est un verbe réformer, c'est un verbe transitif qui dit faire subir des modifications afin d'améliorer quelque chose. Et quand on améliore quelque chose, il faut introduire des innovations. Et dans le cas d'espèce, on a introduit des innovations, un, sur le seuil de représentativité, deux, sur la machine à voter, et trois, sur la caution qu'on doit poser. Et maintenant, ça nous ramène...
Et selon vous, ces innovations viennent améliorer cette loi ou viennent plutôt apporter d'autres problèmes?
C'est là où nous parlons maintenant des réformes électorales, qui s'est définie comme un concept de faire mieux, adapter le procès électoral aux désirs et aux attentes de la population. La population congolaise qui est considérée comme électeur, est-ce que la majorité au pouvoir, l'opposition politique, est-ce qu'ils s'engagent pour faire introduire la réforme en adaptant ce processus électoral aux désirs et aux attentes de la population? Voilà la question. Et cette réforme va porter sur quel domaine? Sur le domaine légal, sur le domaine administratif ou sur le domaine politique? Et c'est de là que ça nous ramène maintenant aujourd'hui à l'interprétation des innovations. Parce que ce sont quelque chose de neuf. Quand vous avez vu même le débat au niveau de l'Assemblée nationale, et tout le monde a difficile à contenir, à appréhender le contenu même du seuil. Et ici, il y a une confusion. Parce que quand nous parlons du seuil, nous devons recourir, parce que l'émission est pédagogique, nous devons recourir à ce qu'on appelle quotient électoral. Le quotient électoral, c'est quoi? Comme la CENI a prévu 45 millions d'électeurs enrôlés, nous prenons le nombre d'électeurs enrôlés, 45 millions, et le législateur congolais a prévu 500 sièges, nous prenons ces 45 millions d'électeurs, nous divisons par 500, nous trouvons 90 000. Et ces 90 000 deviennent notre quotient. Mais la difficulté se pose à quel niveau d'interprétation par l'opposition et la majorité? C'est au niveau de seuil, au niveau de la circonscription. Est-ce qu'on va partir de seuil de 1, du quotient électoral national au quotient de circonscription? C'est là que nous disons, de façon technique, on peut calculer le seuil au niveau des suffrages. Le nombre d'électeurs enrôlés dans une circonscription, par exemple 60 000 électeurs enrôlés, si le nombre de sièges c'est 20, nous prenons 60 000 divisions par 20, nous n'allons pas diviser par 500 ni par un autre chiffre. Et c'est de là que nous disons, on se trouve maintenant devant deux types de vote. L'actuel mode de vote, c'est la représentation proportionnelle intégrale. Mais en introduisant le seuil à représentativité, et là, le problème se pose. Et quel contenu technique, quel contenu politique nous devons donner à ces éléments techniques? C'est pourquoi nous demandons à l'opposition et à la majorité de développer un argumentaire qui puisse faire passer le message auprès de l'opinion. Parce qu'il ne suffit pas que nous pouvons rejeter ou bien accepter en revenant pour dire est-ce que la réforme que nous introduisons aujourd'hui va-t-il être adaptée au processus électoral qui est le nôtre pour arriver aux désirs et aux attentes de la population? La majorité dit oui. L'opposition dit non. Mais comment arriver à réconcilier les deux? Parce que ici, nous disons, on ne peut pas prétendre avoir un pouce électoral apaisé dans un environnement électoral, dans un environnement politique agité.
Jérôme Bonso, est-ce que si je vous comprends, vous êtes technicien, de votre point de vue, de ce point de vue, est-ce que cette loi telle qu'elle a été adoptée répond aux attentes de la population ou elle vient plutôt créer la confusion?
Toute loi, partout au monde, doit répondre à l'attente de la population.
En l'occurrence, celle-ci.
Et pour qu'elle puisse répondre à l'attente de la population, c'est aux acteurs politiques de l'opposition, de la majorité, de faire comprendre, parce que cela doit être précédé par un consensus politique qui devait être dégagé en amont tout comme en aval.
Qui ne l'a pas été, malheureusement.
Qui n'a pas été dégagé au niveau de l'Assemblée nationale, mais qui devait être récupéré en aval au niveau du Sénat. C'est pourquoi nous disons que la classe politique congolaise, majorité et opposition, puisse s'investir dans la reconstruction du consensus au niveau du Sénat et au niveau de l'harmonisation de ces textes de loi pour que cette loi électorale qui est réformée ou bien amendée ou bien modifiée, parce que ce n'est pas une nouvelle loi électorale, c'est une loi électorale qui vient, je l'ai si bien dit, le 9 mars 2006, puisse répondre aux aspirations et aux attentes pour que les élections puissent pas présenter, la loi ne puisse pas présenter un problème conflictuelle auprès de l'opinion. Qu'est-ce que faire? Parce qu'une des véritables élections démocratiques, c'est la résolution pacifique des conflits. Mais nous voulons aller aux élections avec une loi qui est au départ contestée. Ça va donner que les résultats. Merci. Donc, le capital de confiance doit être de mise au niveau des deux familles politiques, majorité et opposition.
Merci. Maître Mata Diwamba, je vous donne la parole tout à l'heure. Oui. Nous allons prendre d'abord cette réaction pour l'honorable Sesanga. Elle vient d'Oicha, au Nord Kivu.
C'est un bon cas à partir de l'Ouïtien. Je crois que l'homme congolais n'est pas encore prêt pour les élections. Voilà pourquoi il ne fait que des discours populistes qui ne nous fait avancer à rien. Et je crois que cet homme congolais doit savoir qu'il ne sera pas voté sur base des discours populistes et des injures. Mais plutôt, il sera voté sur base des projets de société qu'il va défendre devant le peuple. Et s'ils sont en train de se battre pour la loi électorale, je pense qu'il n'y a pas de problème pour les seuils. Parce qu'actuellement, nous constatons qu'en République démocratique du Congo, il y a des partis politiques, sa projet de société, sa projet de développement, et nous les votons sur base de leur popularité. Imaginez un homme populaire dans ce village et qui se réveille petit matin et qui se dit avoir un parti politique sans aucun projet de société et il ne fait que penser dans des villages pour prêcher des injures, des discours populistes qui ne fait avancer à rien.
J'ajoute, honorable Sesanga, cette réaction de Dr Passy Kena qui nous écrit de Kananga au Kasai central qui dit « Une fois de plus, l'opposition congolaise prouve à la face du monde qu'elle ne veut pas aller aux élections car en rejetant cette loi électorale, l'opposition freine non seulement le processus électoral mais sacrifie aussi l'avenir de toute une nation qui attend impatiemment les élections. Par ailleurs, c'est vrai que la loi électorale contient des imperfections, mais l'essentiel est d'avoir les élections, quelles que soient ces petites imperfections, d'ici 2018, que de préférer des élections supposées incontestables qui se tiendront de là de 2018, car la sagesse voudrait qu'entre deux mots, mieux vaut choisir le moindre mal. » Pour nous rappeler ces sangs.
Oui, l'auditeur de Ouicha dit effectivement qu'il faut écrémer. Nous ne sommes pas contre le fait de pouvoir écrémer les partis politiques et avoir une représentation rationalisée de l'opinion. Nous disons qu'il faut le faire de la manière qui soit à la fois conforme à la Constitution. Et sur ce point, je crois que l'honorable Matayouamba ne me démentira pas. En ce qui concerne les indépendants, il y a une violation d'un principe constitutionnel qui s'impose. Et ensuite, le système qui est proposé est un système qui va compliquer la situation plus qu'il ne va l'améliorer du point de vue du seuil. Parce qu'en plus du contentieux que nous avons toujours connu, nous allons avoir le contentieux de la cascade, en cascade. Le contentieux en cascade, qu'est-ce que c'est? C'est que lorsque sur une liste, sur l'étendue du territoire national, vous avez été élu, j'ai fait des simulations ici, vous voyez un parti qui atteint le seuil au 383e candidat, qui n'a que 100 voix. Si ce candidat-là est annulé par un contentieux quelconque, le parti perd son quotient, et donc par conséquent n'est plus éligible. C'est-à-dire qu'on va arriver dans des hypothèses où un parti qui a siégé pendant un an avec 15-20 députés peut être invalidé totalement pour le remplacer. Ceci ne va pas contribuer à la paix sociale. Connaissant la situation des magistrats dont le ministre de la Justice a dit que c'était des 3V, donc je ne pense pas que voiture, veste et villa, ça va nous aider à gérer les contentieux électoraux, sachant que la République démocratique du Congo est le pays qui a le plus de contentieux au sein de l'Union interparlementaire. Donc, écrémé, oui, mais pas n'importe quelle manière. Deuxième chose, il est quand même immoral pour des gens qui ont mal géré, qui n'ont pas construit, pas des routes, pas des écoles, et quoi que ce soit, et qui ont détourné l'argent, et le pays est réputé pour ce qu'il est, et qui vont imposer que pour pouvoir exercer la fonction publique, les mandats d'État, il faut carrément les acheter. Ce que les auditeurs doivent savoir, avec la loi qui vient d'être posée, quand on fait les statistiques, il faut environ 300 candidats pour pouvoir atteindre le seuil. C'est à peu près la moyenne. 300 candidats aux élections législatives, ça veut dire qu'il faut mettre $300,000 pour le dépôt des candidatures. Quels sont ces Congolais, enseignants, professeurs d'université, avocats, cadres dans ce pays qui ont autant d'argent pour pouvoir le faire? Même l'argent de nos cotisations ne suffit pas. Si vous voulez présenter des candidatures au niveau provincial et au niveau national, moi je fais les calculs, il vous faut pour le dépôt $1,287,000. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais parce que eux ils ont pillé les caisses de l'État, parce que eux ils ont mal géré le pays, ils veulent utiliser cet argent
pour pouvoir confisquer la liberté et la démocratie. C'est contre ça que nous nous insurgeons. Nous sommes naturellement prêts pour aller aux élections parce que nous allons les battre à plate couture. Et s'ils ont fui les élections depuis 2016, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont le perdre. C'est parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas un candidat à l'élection présidentielle, Joseph Kabila ne pouvant pas se présenter, qu'ils ont multiplié ces écueils. Mais alors, je vais rassurer les auditeurs. Quand ils disent, nous avons des problèmes, la machine a fraudé. Mais avec les bulletins de vote, on a déjà des problèmes. Vous savez les problèmes que nous avons eu avec les bureaux d'Ngoï Moulunda. Et le président de la République lui-même a reconnu qu'il y avait des problèmes graves qui avaient entaché les scrutins. Maintenant, on vient ajouter pour ma grand-mère, qui va voter pour moi, je l'espère, on va lui dire qu'il n'a jamais utilisé un ordinateur et tout ça, on va lui dire qu'il va voter par ordinateur. Est-ce que vous imaginez la nature du contentieux et des problèmes que cela suscite? Nous leur disons, mettez la machine à voter de côté. Vous voulez écrémer, il y a des procédures mieux pour pouvoir écrémer. Le nombre de candidatures à présenter ou le nombre de circonscriptions où il faut aller. Le reste, à mon avis, il faut que ce soit les Congolais qui choisissent et pas l'argent qu'ils ont volé.
Merci. Maître Matadi Wamba, avant de réagir, nous allons prendre pour vous cette réflexion qui nous vient de Kinshasa.
Oui. C'est Fulgence Mbala depuis Kinshasa. Ce projet de loi antidémocratique est dépourvu de l'onction populaire et ne tient pas compte de la nouvelle configuration actuelle du pays opérée par le découpage précipité des nouvelles provinces. Certains groupes ethniques du pays, dont les leaders politiques sont influents et indépendants, seront lésés. Au lieu d'être une solution face aux contraintes du processus électoral en cours, ce projet de loi adopté par la majorité mécanique devient un problème sérieux. Cependant, il serait utile pour l'opposition politique d'élaborer un plan commun susceptible de perturber les ambitions des individus qui sont au pouvoir. On en a marre, trop c'est trop.
J'ajoute, Maître Matadi Wamba, cette réaction de Jean Kiko qui nous écrit de Freetown en Sierra Leone qui dit « Entre le procès verbal produit par la machine à voter et celui produit par le comptage manuel, qu'est-ce qui va primer en cas de conflit étant donné que la loi n'a rien prévu à ce propos ?»
Voilà, merci beaucoup. D'abord, la machine à voter n'est plus à l'ordre du jour. Elle n'a pas été retenue dans la loi, que je sache. Elle n'est plus à l'ordre du jour.
L'honorable Sessanga
si ce manque de transparence, assumez. Vous dites, ils disent que la machine à voter n'est pas un vote électronique et donc ça relève de la CENI. Que les Congolais sachent que la CENI va appliquer la machine à voter. C'est le plan de la majorité.
Voilà, laissez-le.
La CENI vient de payer.
Laissez-le répondre, honorable Sessanga.
Il faut qu'il y ait de la transparence.
Voilà. Honorable Matadi
Wamba. Qu'ils assument. Honorable Matadi. Qu'ils assument.
Merci, honorable Sessanga. Mon collègue, Sessanga. Mais j'espère que c'est vous qui distribuez la parole.
C'est pour ça que je suis là.
Et je peux
vous avez
faire
toute ma protection.
Ce petit reproche de lui accorder un peu plus de temps.
Vous avez le chrono, honorable Matadi Wamba.
Ok, donc la machine à voter.
La machine à voter, mais nous avons.
Elle n'est plus à l'ordre du jour. Qu'on se tranquillise.
C'est un mensonge.
Mais c'est pas un mensonge. Il disait la loi.
Qu'est-ce qui vous le fait dire?
Mais moi, j'étais dans la salle hier, non?
Ils ont dit qu'elle...
Jusqu'à 22 heures, j'étais dans la salle. Nous avons voté, elle n'est plus à l'ordre du jour.
Et donc, c'est le vote manuel qui va, qui
écoutez,
sera appliqué.
C'est à la CENI d'en juger.
Mais
c'est à la CENI d'en juger.
La loi ne devrait pas le préciser.
Est-ce que c'est la loi électorale qui détermine le format de bulletin de vote et l'ordre dans lequel on va voter? Le mode, bien sûr, mais pas le format de bulletin et tout ça.
Et c'est quel mode?
Bon, ben écoutez, ça ce sont des questions de la CENI. Moi, je veux bien aller à autre chose, n'est-ce
pas? Allez-y alors.
Lorsque j'apprends ici que... la loi électorale n'est pas bonne. La loi électorale, elle est conflictogène. Il faut que les électeurs, que les Congolais sachent que c'est eux qui vont voter les 500 députés. C'est eux.
Même si les règles ont été mal ficelées.
Mais c'est eux. Mais les règles ont été mal ficelées. Vous connaissez un pays, un gouvernement qui fait une loi électorale pour faire plaisir à tout le monde. Vous connaissez un seul pays?
En d'autres termes, pour ne pas perdre les élections.
Ben, écoutez, si je dis cela, c'est en connaissance de cause. Allez en Amérique, allez en France, en Belgique. Lorsque un gouvernement, je prends ces pays-là que nous prenons pour modèle, lorsque un gouvernement fait une loi électorale, il ne vise pas à faire plaisir à tout le monde. Il peut toujours arranger les choses de manière, mais
Ce n'est pas une.
Si c'est une loi sur mesure, allez à la Cour constitutionnelle. C'est elle qui le dira. Ce n'est pas l'opposition. Ce n'est pas à l'opposition à dire que la loi est anticonstitutionnelle. Elle n'en a pas le pouvoir. La majorité elle-même de l'Assemblée qui donne les lois, mais elle est soumise à l'autorité de la Cour constitutionnelle. Comment? Mais il faut éviter d'égarer les faibles. Il faut éviter. C'est extrêmement grave.
Jérôme, bonsoir. On a appelé au consensus entre la majorité et l'opposition. Malheureusement, la confiance n'est pas de mise.
Mais voilà, le consensus. Mais la démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est lorsque une assemblée vote. Mais c'est pour pouvoir donner une solution à une situation. Vous voulez l'égalité à tout prix? Si on vote à 50% contre 50%, on n'avance pas. Il faut une majorité. Alors, le consensus, ce mot, ce pauvre mot, c'est quoi? Lorsqu'il faut donner une loi par la voie démocratique, c'est quoi? Donc, qu'on cesse d'égarer les faibles. C'est au gouvernement, c'est à l'Assemblée précisément, de donner des lois au pays, n'est-ce pas? Et que, bon, sur proposition, mon collègue Sessang a fait une proposition de loi sur la Cour, sur le Conseil d'État. C'est lui qui a fait ça. Mais suivant ses convictions à lui, ben, cette loi a été discutée longuement et finalement elle est passée. Merci. Alors.
Merci honorable, sauf que je vous arrête à ce
moment. Oui, mais c'est ça, parce que oui.
Vous êtes légèrement en avance.
Je m'arrête.
Sur le chrono.
Voilà. Merci beaucoup.
Honorable Jérôme Bonso, j'allais dire. Jérôme Bonso, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Pounia au Maniema.
Les regards du peuple sont désormais fixés sur le Sénat, qui devrait peser de tout son poids pour barrer la route aux dispositions cahées sur mesure, comme il le fit en janvier 2015, et sur la Cour constitutionnelle qui devrait se prononcer, ne fût-ce contre la disposition inconstitutionnelle du seuil. Sinon, il sera clair que le pouvoir a déjà domestiqué toutes les institutions, et la seule possibilité de l'alternance restera la violence.
Voilà, Jérôme Bonso, vous le savez également.
Vous allez provoquer.
L'État appelle la Chambre haute du Parlement à beaucoup plus de sagesse dans l'examen de la loi électorale votée ce lundi à l'Assemblée nationale. Son secrétaire général demande au Sénat de corriger les irrégularités contenues dans cette loi. Est-ce que c'est logique?
Oui, c'est tout à fait logique. Ici, on ne peut même pas parler de corriger ce qui ne va pas. Ici, nous avons toujours insisté, je l'ai dit au départ, que nous puissions nous investir à reconstruire le consensus. Si nous l'avons raté, je le répète, en amont au niveau de l'Assemblée nationale, nous ne pouvons pas le rater, le consensus, en aval au niveau du Sénat. Et c'est pourquoi nous lançons un appel pressant aux uns et aux autres pour que nous puissions aller à l'alternance. Et je répondrai à mon ami Bampouri qui pour dire, l'alternance, c'est pas la violence. En démocratie, l'alternance, c'est le passage du pouvoir à travers les mécanismes appropriés qui sont les élections démocratiques. Et pour y arriver, c'est de là où nous devons avoir cet outil qui est le calendrier électoral a été déjà publié, mais c'est la loi électorale qui est notre boussole électorale qui devons nous conduire aux élections. Parce que les 17 contraintes présentées par la Commission électorale nationale indépendante dans son calendrier du 5 novembre 2017, et aujourd'hui le débat ne se focalise plus sur ces 17 contraintes. Or, au niveau de nos populations, organisations de la société civile que nous sommes, nous voulons que ces 17 contraintes puissent être transformées par la majorité et par l'opposition politique en opportunités logistiques, techniques, financières, législatives. Et à ce moment-là, nous pouvons répondre au rendez-vous fixé par le calendrier du 23 décembre 2018 pour l'organisation de 3 scrutins présidentiels, députation nationale, députation provinciale et arriver à la passation civilisée du pouvoir arrêté en date du 12 janvier 2019. Mais si nous continuons, nous assistons à ce débat de la majorité de l'opposition, on a l'impression que tout le monde utilise les élections comme cache-sexe et tout le monde n'a pas la volonté manifeste de nous amener aux élections selon le calendrier qui est présenté par le pouvoir organisateur des élections dans notre pays.
Jérôme Bonso, on a la malheureuse expérience de janvier 2015 où un projet de loi électorale avait causé des violences à travers le pays. Comment le Sénat pourrait-il favoriser ce consensus auquel vous appelez, mais qui a malheureusement raté à l'Assemblée nationale?
Vous savez, au Sénat, en d'autres termes, on appelle le Sénat une chambre des sages. Le Sénat doit utiliser tous les atouts pour qu'on puisse ramener dans au niveau de l'harmonisation, parce que le Sénat va débattre cette loi. Il y a une rencontre qui est prévue au niveau du Parlement où l'Assemblée nationale et le Sénat arrivent à harmoniser.
Et quand ils ne sont pas d'accord, c'est le point de vue de l'Assemblée qui prennent.
Nous ne le pensons pas. Nous voyons que tout le monde a tout intérêt à privilégier le dialogue et le consensus et la confiance. Et d'où nous les appelons à reconstruire la confiance. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on doit nous amener aux élections dans un environnement agité. Parce que nous le répétons, qu'on s'investisse pour dire, unissons-nous pour aller aux élections. Mais si les uns et les autres peuvent nous faire un jeu de cache-cache, donc l'opinion prendra acte pour dire à quel niveau il y a eu blocage de ce processus électoral que nous voulons transparent, crédible et apaisé.
Il y a Junior Bompongo qui nous écrit de Mbandaka qui dit d'entrée de jeu, ici est de signaler que cette loi électorale est conflictogène et inquiète non seulement l'opposition qui siège au Parlement, mais aussi toute la population sur un fond d'état social assez explosif qui n'attend qu'une mèche, Jérôme Bonso.
Oui, la loi ne peut pas inquiéter la gente, parce que la loi, toute loi, à travers le monde, la loi c'est pour apaiser le meurtre, parce que pour nous amener à ce que nous puissions résoudre pacifiquement nos conflits latents et manifestés qu'il existe. Et c'est à ce moment-là, nous disons, c'est à nous de nous investir. C'est que cette loi ne puisse pas être une loi impersonnelle, qu'il puisse être une loi qui concerne toute une nation et dans le temps et dans l'espace. Toute la loi a une capacité d'avoir une durabilité. Et pourquoi nous disons que aujourd'hui nous avons fait la réforme électorale en 2011, nous avons introduit des modifications en 2015 et aujourd'hui, quel est le contenu de ces réformes pour que les uns et les autres puissent appréhender que demain, qu'on voit honorable Délice Sanga animer auprès de sa base le bien fondé de la loi électorale. Honorable Matadi Wamba animer le bien fondé de la loi électorale. Et nous, société civile, nous investir dans la vulgarisation de la loi. Parce que le débat se pose au niveau d'un déficit de communication du contenu des innovations et du contenu de la loi électorale qui est en train d'être modifiée.
Honorable Délice Sanga, il faut déjà conclure à cette allure. Pensez-vous qu'on pourrait avoir des élections à apaiser?
Le problème, c'est que moi, je veux faire la conclusion sur base de ce qu'a dit le collègue Matadi Wamba. Il dit, on ne fait pas une loi électorale pour ne pas perdre l'élection. J'entends souvent dire ça dans la majorité, mais je leur rétorque.
Pour plaire à tout le monde.
Non, non. Vous allez conclure, une loi électorale doit être consensuelle. Une loi électorale ne doit pas être une loi hégémonique. La différence entre nous, ce pourquoi le peuple congolais veut les chasser, c'est parce qu'ils veulent une hégémonie au pouvoir. Merci. En manipulant les instruments électoraux. Donc il faut rebâtir le Merci. Consensus, arriver à faire en sorte que le Congolais aille. On n'a pas vendu ces pays à ceux qui Merci. Ont pillé les ressources du pays pour imposer que pour être candidat, Merci, honorable, il faut des millions de dollars dans un pays où 70% des Congolais sont pauvres.
Maître Matadi Wamba.
Voilà, j'illustre mon propos de tout à l'heure. En France, c'est Mitterrand qui a introduit la proportionnelle. Parce que jusque-là, c'était la majoritaire. Net. Même à une voix, vous enlevez tout. Et c'est Mitterrand qui a introduit la proportionnelle qui a permis au Front National d'émerger, d'entrer à l'Assemblée.
Et en conclusion,
une loi est là, mais ce sont les électeurs qui votent. Que tout le monde soit tranquille, ce n'est pas la loi qui va voter.
Merci. Jérôme Bonso, conclusion.
L'opposition et la majorité sont invités à s'investir à ce qu'on puisse dégager un consensus sur cette loi électorale pour que les élections puissent être apaisées dans un environnement politique apaisé.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Guy Maté était à la réalisation assistée de Dona Madimba. Jean-Noël Mokondo était à la mise en onde. Supervision Pelekipela Mondo, coordination et présentation. Alain Rung Mouchige. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Au revoir.